Lorsque Jeanne le Grand m'a demandé de réaliser la recherche des ascendants d'une des branches de sa famille, elle a ajouté que je devrais y rencontrer un personnage intéressant, le dernier bourreau de la ville de Mons. Elle ne savait rien d'autre, si ce n'est qu'il s'appelait Foulon et qu'il devait s'agir du grand-père de son arrière-grand-mère, Emma le Grand. Le personnage fut vite retrouvé. C'était Victor Foulon, né en 1849 à Mons, chef-lieu aujourd'hui belge de la province du Hainaut. Tous les actes d'état civil le concernant en faisaient pourtant un ajusteur ou un mécanicien. Mais surtout, Victor a vécu sous le règne du roi Léopold Ier, qui était totalement opposé à la peine de mort. Ainsi, entre 1865 et 1918, il n'y eut aucune exécution capitale en Belgique. Si Victor avait officié comme bourreau, il aurait été au chômage sa vie durant. Prévenu de ces faits, Jeanne a consulté sa famille et tous se sont résignés à considérer qu'il devait s'agir d'une légende familiale, comme il s'en transmet souvent au fil des générations. Toutefois, avant d'écarter définitivement l'hypothèse, on pouvait aussi s'intéresser au père de Victor, François Foulon, puisque de son vivant, la guillotine était encore en service. Il était lui né à Mons aussi, en 1819, où il décéda en 1885. Là encore, la consultation des actes d'état civil le concernant n'offre pas la moindre piste. Pour son mariage en 1840 avec Adrienne Mandon, il est désigné, ainsi que sa femme d'ailleurs, comme journalier. Plus tard, à l'occasion de la naissance de ses nombreux enfants, on le dit ouvrier menuisier ou ouvrier ébéniste. Mais l'autre nom de la guillotine n'est-il pas le bois de justice ? Et un examen plus attentif de l'acte de mariage de François Foulon permet de s'intéresser aux témoins. Il y en a notamment deux qui portent le même nom, Jean-Joseph et François Guillaumet. Le second est un journalier de 49 ans, mais le premier, âgé de 56 ans, fait profession, tenez-vous bien, d'exécuteur des hautes œuvres. Alors ceux qui parmi vous ne sont pas familiers des arcanes de la justice criminelle peuvent ne voir dans l'exécuteur des hautes œuvres qu'un artisan d'art particulièrement qualifié. Mais en réalité, il s'agit du nom officiel désignant le bourreau, et les hautes œuvres étaient les tâches qu'il assurait en tant qu'exécuteur de la haute justice, le bannissement, les châtiments corporels, la torture, la mise à mort, l'exposition au pilori. Ainsi donc, le jeune François Foulon, âgé de 19 ans, avait-il comme témoin de mariage le bourreau en titre de la ville de Mons. Les Guillaumet constituaient une véritable dynastie de bourreaux qui ont possédé la charge à Mons depuis 1772. Jean-Joseph avait succédé à son père, qui avait lui-même remplacé le sien dans ses fonctions. François Guillaumet, l'autre témoin du mariage, le journalier, était le cousin de ce Jean-Joseph, mais aussi, on l'apprendra ailleurs, son aide officielle dans l'exécution des hautes œuvres. Mais quel pouvait être le lien entre ces deux sinistres personnages et notre jeune journalier, futur ouvrier ébéniste ? La première chose qui saute aux yeux se trouve aussi dans l'acte de mariage de 1840. Tout le monde habite au même endroit, une sorte de village dans la ville de Mons, le Mont du Parc. Ce quartier a aujourd'hui disparu, détruit par les bombardements en 1943 et 1944. C'était une sorte de plateau auquel on accédait par une montée d'escalier assez raide et qui jouissait d'une vue très étendue. Il était occupé par une population ouvrière, d'hommes à tout faire, de journaliers, donc des manœuvres qui se louaient à la journée, de petits artisans et de servantes. Mais c'était aussi le quartier des Bézelettes et autres dames au ruban jaune, c'est-à-dire des prostituées de la ville. Et curieusement, depuis le Moyen-Âge, les filles de l'amoureuse vie sont justement placées sous l'autorité du bourreau de la ville. Tout ce monde se côtoyait et vivait dans une grande proximité. Vous me direz qu'on ne voit toujours pas le rapport avec notre jeune marié de 1840. Eh bien, continuons à décrypter l'acte de mariage qui nous met cette fois en présence de la mère de François Foulon, Catherine, qui consent aux noces de son fils naturel. François porte le nom de sa mère, aucun père ne l'avait reconnu en 1819. C'est une chose qui peut arriver, et de premier abord, on ne va pas y voir malice. Intéressons-nous quand même davantage à Catherine Foulon. Elle est née en 1789 dans le petit village d'Estine au Val, situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Mons. Son père Augustin est venu s'installer à Mons pour trouver un sort meilleur, quoique bien précaire, en s'employant comme journalier paveur, paveur de rue. Il s'était logé justement dans le quartier du Mont du Parc où Catherine, sa fille, passera toute sa vie. De patientes recherches dans les archives de l'état civil de la capitale du Hainaut permettent de découvrir la nombreuse progéniture de Catherine. Alors qu'elle ne s'est jamais mariée, pas moins de 7 enfants ont été retrouvés, sans qu'il soit certain que le décompte soit exhaustif. De la naissance d'Adrienne en 1817 à celle de Charles en 1830, en passant par celle de François que nous connaissons déjà, ces 7 enfants sont donc nés hors mariage. 5 sont nés de pères inconnus et 2 ont été reconnus en 1827 et 1828 par Louis ou Jean-Louis Clès. Celui-ci a 6 ans de moins que Catherine et il est noté dans les actes comme écrivain, ce qui signifie sans doute qu'il exerce comme écrivain public. Il habite aussi le fameux quartier du Mont du Parc. En 1834, il aura un autre enfant, d'une autre femme également journalière, mais cette fois il le légitimera par un mariage. Son statut alors s'est consolidé puisqu'il sera désormais officier payeur au 9e régiment de ligne en garnison à Mons. Pour la première naissance d'Adrienne en 1817, il apparaît que Catherine est servante. Pour toutes les autres, elle est journalière. Dès 1817 également, les liens avec la famille Guillaumet sont établis, puisque la naissance d'Adrienne est déclarée par François Guillaumet, le cousin et aide du bureau de Mons. En 1822, la naissance de Joseph est déclarée par Joseph Guillaumet, le père du précédent et également aide du bourreau. François déclarera en plus un troisième enfant, Laurence, en 1824. Alors, quelle conclusion tirer de ces observations? Franchement, aucune ne s'impose. Mais, les 4 premiers enfants n'auraient-ils pas pour père François Guillaumet, le cousin et aide du bourreau? Il déclare en effet la naissance de 3 d'entre eux et sera plus tard le témoin de mariage de François Foulon. On pourrait expliquer qu'ils n'en reconnaissent pas la paternité par la volonté de protéger les enfants. Car à cette époque, les bourreaux et leurs familles vivaient en marge de la société dont ils étaient les parias, puisque chargés de l'impureté du sang répandu. Cette marginalisation incluait aussi l'exclusion de l'enseignement ou de l'apprentissage des enfants des bourreaux et de leurs aides, qui, victimes de ces préjugés et en l'absence de formation, ne pouvaient exercer d'autres métiers que celui de bourreau ou d'aide de bourreau. Une autre hypothèse ferait de Catherine Foulon une baiselette ou une fille de l'amoureuse vie qui aurait subi des grossesses à répétition. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'en a pas moins été une bonne mère, puisqu'on la retrouve présente au mariage de ses enfants, et les membres de la fratrie sont aussi témoins ou déclarants des événements de la vie de leurs frères et sœurs. Qu'ils soient donc pour la plupart nés d'un aide-bourreau, François Guillaumet, ou des vicissitudes de la vie de luxure de Catherine, ils ont réussi à former une famille relativement unie, mais sans doute d'une pauvreté extrême. Maintenant que la proximité des Guillaumet, de Catherine Foulon et de ses enfants est clairement établie, il reste à qualifier le rôle qui a pu être celui de François Foulon dans l'exécution des hautes œuvres. Mais là, aucun état civil ne donne la moindre piste. Il a fallu l'enquête de plus de 30 ans d'un inspecteur de police judiciaire belge, Noël Stevens, publié opportunément en septembre 2020, pour réunir des éléments probants. Il en ressort que Jean-Joseph Guillaumet, le bourreau en titre depuis 1825, qui avait son cousin François Guillaumet comme aide, s'était aussi débrouillé pour engager François Foulon comme second aide, peut-être même dès 1835, alors qu'il n'est âgé que de 16 ans. Le bourreau disposait en effet d'une allocation lui permettant de recruter et de rémunérer 2 aides. Mais le concours de François Foulon, pour réel qu'il soit, n'avait pas de caractère officiel. La situation a changé après la mort de Jean-Joseph Guillaumet en 1852. À l'époque, il y a de moins en moins d'exécutions en Belgique, et le pays se dote d'un seul exécuteur national qui, tant qu'ils sont vivants, va s'appuyer sur les aides bourreaux en poste dans les chefs-lieux de province. Ce sera le cas à Mons pour François Guillaumet, le fameux cousin, et François Foulon. Celui-ci se verra même admettre en 1853 dans la liste des aides exécuteurs officiels. Le voilà quasiment fonctionnaire. Lorsqu'il décédera En 1885, dans sa maison du Mont du Parc, il sera déclaré pensionné, preuve supplémentaire de sa reconnaissance officielle comme aide du bourreau qui donnait droit, le grand âge venant, à l'attribution d'une pension. Les exécutions se trouvaient néanmoins assez espacées dans le temps. La première à laquelle François Foulon contribua fut celle en 1842 d'un domestique de 28 ans qui avait assassiné un riche rentier et étranglé sa servante. L'instrument de mort était installé sur une sorte d'estrade, bien en vue de la foule, toujours considérable et avide du spectacle. Le 1er juin 1844, François accompagne et assiste le bourreau, qui se déplace dans la région de Tournai, pour la mise à mort de Ferdinand Duret, 39 ans, qui n'était pourtant coupable que de l'incendie d'une meule de foin dans un conflit de voisinage. Mais plus pénible sans doute a dû être sa participation, le 22 juin 1844, trois semaines plus tard, à l'exécution d'une femme de 31 ans, coupable d'avoir tué en l'étouffant sa petite fille de 2 ans. Guillotiner une femme, c'est toujours la hantise des bourreaux. Il était toujours plus difficile de les maîtriser sans offenser la pudeur de l'époque. Le 15 avril 1848, Jean-Joseph Guillaumet, assisté de son cousin et de François Foulon, guillotine un ouvrier tanneur de 24 ans, coupable d'avoir assassiné la tenancière d'un café pour la voler. Poursuivons rapidement ce terrible palmarès. Le 19 février 1850, notre François Foulon est aussi de la partie pour guillotiner Louis Lacman, un cultivateur de 51 ans qui faisait régner la terreur dans son village. On l'accusait cette fois d'avoir blessé au bras d'une décharge de chevrotine le meunier du lieu. Eh oui, c'est seulement pour cela qu'on l'envoya à la mort. François assista enfin le bourreau Guillaumet dans ses deux dernières exécutions avant sa mort. D'abord celle d'un garçon boucher de 23 ans, assassin de sa belle-sœur, le 14 janvier 1851, puis celle d'un aristocrate, le comte Hippolyte Vizard de Beaucarmé, qui, couvert de dettes, avait empoisonné son beau-frère à la nicotine pour toucher l'héritage. C'était le 19 juillet 1851 et François avait alors 32 ans. Il est difficile de garantir sa présence pour les exécutions suivantes. Elles se sont déroulées à Mons, mais dans ce cas, il devait assister l'exécuteur national en fonction à Bruxelles qui devait se déplacer. Les archives manquent pour apporter des éléments probants. Mais il est certain que sa sinistre carrière ne s'est pas arrêtée en 1851. Puisqu'il a été en quelque sorte titularisé, nous l'avons vu, comme aide-exécuteur en 1853 et qu'il est mort pensionné en 1885. Mais, comme nous l'avons vu aussi, il n'y a eu aucune exécution en Belgique à partir de 1865, du fait de l'opposition du roi à la peine de mort. François eut donc tout le temps nécessaire pour se consacrer à son autre métier d'ouvrier menuisier ou ébéniste. Alors terminons cette histoire avec le destin tragique d'une des petites filles de François Foulon. Charlotte, née à Mons en 1879. Elle avait épousé en 1900 Jean-Baptiste le Grand. Le 10 juin 1914, pendant que ses enfants jouaient au jardin, elle avait mis au feu du papier provenant de vieilles tapisseries et elle tisonnait le poêle dont le couvercle était enlevé. Soudain, une gerbe de flammes s'éleva et communiqua le feu aux vêtements de la malheureuse Charlotte, qui, terrifiée, fut prise d'une crise de nerfs et se trouva dans l'impossibilité d'éteindre l'incendie. Son fils de 11 ans, rentrant du jardin, aperçut sa mère entourée de flammes. Il jeta quelques seaux d'eau sur elle avant d'aller avertir les voisines. Quand celles-ci arrivèrent, Charlotte se trouvait debout, réfugiée dans un coin de sa chambre, ses effets achevant de se consumer. Très grièvement brûlée, elle ne survécut pas. Âgée de 35 ans, elle était enceinte au moment du drame. Charlotte était l'arrière-grand-mère de Jeanne Legrand qui m'a confié cette enquête.